Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission.
Salut Alain, salut à tous.
Bonjour Raphaël, comment ça va ?
Eh ben écoute, ça va, ça y est, les playoffs sont lancés, on est au top, on est
bon,
au top.
Très bien, ouais, tu as vécu, c'est toi qui as fait le résumé en plus du match, donc on peut pas être, on peut pas, alors attends, parce que j'ai fait une erreur, voilà, je t'ai pas mis, on t'entendait mais on te voyait pas, c'est mieux.
Ah,
voilà,
c'est mieux, maintenant qu'on est sur Twitch.
Bah oui, c'est ça, vaut mieux qu'on voit les gens, je suis pas, j'ai toujours ces vieux réflexes, non mais j'oublie d'appuyer sur les boutons qu'il faut appuyer des fois. Donc je disais, on a de la chance parce que c'est toi qui as fait le résumé du match. On va dire le plus, je sais pas si c'était le plus important, mais en tout cas celui qui a amené l'action la plus folle, en tout cas qui va amener l'analyse la plus folle, je pense, de cette nuit. Et ça tombe d'autant mieux que, honnêtement, comme j'ai une grippe bien vénère, je l'ai regardé aujourd'hui parce que je dormais à 9h30 hein, hier soir. Hein, et étant donné que je l'ai regardé dans un état de semi-coma, je compte sur toi parce que.
Très bien.
Voilà, c'est pas évident de regarder les matchs à ce moment-là. Jaguars 31, Chargers 30. Il y avait 27-0. Les Jaguars avaient été, et ils ont été, donc ils ont été interceptés 4 fois. Ils ont perdu un ballon sur un punt. Et pourtant, victoire de Jacksonville au bout sur un field goal de la gagne à la dernière seconde. Raphaël, en bref, alors en bref, c'est pas facile, mais...
Ouais, c'est pas facile.
Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?
Qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses concomitantes, j'ai envie de dire. D'un côté, une équipe de Jacksonville qui n'a rien lâché et avec très probablement un... Alors, on ne sait pas, hein, on n'était pas dans le vestiaire, mais très probablement un bon discours ou en tout cas quelque chose d'assez fort de la part de Doug Peterson envers ses joueurs et notamment vers Trevor Lawrence, parce qu'on développera un peu après, mais la première mi-temps de Lorenz, c'est quand même très, très compliqué pour un jeune quarterback avec autant plus de pression et de hype autour de lui, en tout cas à son arrivée en NFL. Et pourtant, il n'a pas coulé. Doug Peterson a réussi à le maintenir psychologiquement dans le match et à progressivement lui donner l'opportunité de faire parler son talent. Donc, il y a eu vraiment cette combativité, on va dire, des Jaguars est remporté, à mon sens, hein, vraiment par Doug Peterson et son coaching. Et puis, de l'autre, forcément, il faut aussi profiter des faiblesses de l'adversaire. Et t'as des Chargers qui se sont complètement liquéfiés en deuxième mi-temps. La défense a arrêté de provoquer ses turnovers, s'est mise à jouer de manière très soft, on va dire. L'attaque n'a rien produit et il y a eu un ensemble de mauvaises décisions, on y reviendra, mais d'un peu partout, et voilà.
Alors, il y a un field goal notamment grâce à une conversion à deux points un peu plus tôt qui est bien aidée elle-même, la conversion à deux points, par une pénalité. Mm-hmm. Et tu le disais, il y a une défense qui s'assouplit. Je sais que c'est un truc qui te fait souvent tiquer quand une équipe mène et que la défense se met à jouer de manière moins agressive. Est-ce que ça a été le cas ce samedi ?
En tout cas, c'est l'impression que ça a donné. C'est vrai qu'en première mi-temps, on avait le sentiment, notamment à l'image d'Asante Samuel, hein, le jeune cornerback des Chargers, que les défenseurs des Chargers étaient à chaque fois sur les receveurs des Jaguars avant même qu'ils aient le temps de pouvoir attraper le ballon. Quelquefois, c'était peut-être même à la limite de la passe interférence, mais en tout cas, ils étaient présents. Et en deuxième mi-temps, à chaque fois, les receveurs des Jaguars avaient 2-3 yards d'écart avec leur cornerback adverse. Et en fait, c'est presque comme si les Chargers avaient fait le choix de laisser les receveurs des Jaguars compléter les passes, mais que ça prenne un peu de temps, de les bloquer, mais tu vois, par un jeu un peu lent, on ne prend pas de risque, mais voilà, on les laisse avancer parce qu'on a de l'avance, et on peut se permettre de les laisser avancer, mais le temps s'égrène et ça va le faire. Sauf que bah ils ont fait quelques erreurs supplémentaires, le pass rush a disparu et le tout dans le tout, ouais, ils se sont la défense s'est complètement comment dire, soft, j'ai le mot soft
C'est
en anglais,
endormi,
mais
quoi.
ouais, c'est endormi. Donc c'est pas le seul problème, hein, c'est pas le seul problème bien sûr des Jaguars, enfin des Chargers, mais ça en fait partie manifestement.
On peut dire que de l'autre côté, ça s'est presque un peu assoupi aussi, c'est-à-dire qu'il y a 23 courses pour 43 passes dans un match où tu domines de la tête et des épaules. Pourquoi ils n'ont pas couru plus? C'est un peu aussi une des choses qu'on peut se demander.
C'est une des bonnes questions. C'est vrai que, alors, Austin Ekeler, sur ses quelques portées, on a vu qu'il avait du mal à trouver de l'espace et à faire la différence. Ils n'ont pas été aidés par la blessure de leur left tackle titulaire. Et quand le left tackle remplaçant est rentré sur le terrain, c'est vrai qu'on a senti que c'était de plus en plus dur pour avancer, notamment sur la course. Mais malgré tout, je pense qu'ils ne l'ont pas assez utilisé. Parce que même une course un peu ratée de temps en temps, c'est quand même 40 secondes progressivement qui s'égrènent. Et au-delà de ça, moi, c'est l'utilisation presque même, j'ai envie de te dire, plus globale d'Austin Ekeler qui me surprend. Ekeler, toute la saison, c'est à peu près 6 réceptions par match. Là, il est ciblé deux fois. Justement, quand tu vois que Herbert prenait de plus en plus la pression, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu des passes en sortie de backfield pour Ekeler, pour essayer de déjouer un peu les squads de linebacker et le pass rush de Jacksonville. Donc, il y a eu ce mauvais coaching manifeste du côté de. Les Chargers.
D'autant que le jeu au sol, aérien, pardon, est pas non plus d'une efficacité complètement dingue. Enfin, j'ai l'impression que
Non.
Gerald Everett le porte beaucoup. Il a été très impressionnant sur certaines séquences
Tout à
avec
fait, ouais.
ses 6 réceptions pour 109 yards. Mais ça semblait quand même assez limité. Donc c'est vrai qu'un peu plus d'équilibre aurait été bienvenu, non?
Ouais, plus d'équilibre aurait été bienvenu. Et de toute façon, tu vois que c'était pas une grande performance offensive des Chargers, mais même dès la première mi-temps, j'ai envie de te dire, en fait. Parce que en première mi-temps, Jacksonville perd 5 ballons et au final n'est mené que de 20 points. C'est pas, enfin, le ratio perte de balles provoquée écart était pas si significatif que ça. Et quand tu regardes les drives que les Chargers sont souvent repris en très bonne position, soit dans le terrain de Jacksonville, soit depuis quasiment leurs 40-45 yards, bah t'as des field goals et t'as pas tant de touchdowns que ça. Et ça aussi, à la fin. Ces opportunités ratées de vraiment mettre, on va dire, les clous finaux sur le cercueil Jacksonville se sont payés cash.
Est-ce qu'on commence à parler de la sécurité du job de Brandon Staley? Ça fait que 2 saisons en fait qu'il est là.
Ouais.
Il a un bilan de 19-15 et donc 0-1 en playoff.
Écoute, forcément, après une telle débâcle, une telle remontée, le coach doit trinquer, j'ai envie de dire, et doit prendre sa part de responsabilité, et doit être mis en avant. Donc il a fait des erreurs, il a fait un mauvais coaching, c'est une évidence. Moi, tu vois, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le résumé du match, je l'ai mis dans le flop du match, hein, c'était la catégorie flop du match, et oui, je me doute qu'il a la pression d'un certain autre homme. Maintenant, si on peut mettre un peu quand même d'eau dans notre vin, j'ai envie de dire, pour moi, il n'est pas responsable de tout. Il n'est pas responsable de tout. Ce n'est pas lui qui fait rater à son kicker un field goal de 40 yards. Ce n'est pas lui qui fait faire à Joey Bosa ses fautes personnelles qui permettent aux Jaguars de tenter une conversion à 2 points qui leur permettent derrière de remporter le match sur un field goal. Aux Jaguars de marquer un touchdown alors que ses coéquipiers venaient de saquer Trevor Lawrence sur une troisième tentative. Et Justin Herbert a aussi raté beaucoup de choses en attaque, notamment une passe de touchdown pour un Keenan Allen absolument tout seul en première mi-temps. Donc, si tu veux, c'est clair et net, il est responsable parce que c'est le coach. Et contrairement à Doug Peterson qui a réussi à maintenir son équipe à flot, lui ne l'a pas fait. Mais il y a quand même des erreurs individuelles de ses joueurs qui lui sont difficilement imputables. Donc, voilà, pour moi, la vraie question maintenant, c'est. Est-ce que le staff, enfin, est-ce que l'organisation de Chargers pense que Staley peut continuer à faire progresser Herbert ou en tout cas être mieux accompagné pour le faire? Ou alors est-ce que non, tu confies et tu vas chercher Sean Payton parce que tu penses que c'est le gars qu'il faut pour faire passer un palier à Herbert? Voilà.
Ah, moi je l'ai dit, hein. De toute façon depuis quoi 3 semaines je disais que Sean Payton il fait des tours en voiture pour voir si la place de
Ouais, bien
parking est libre.
sûr.
Bah, je pense que là typiquement c'est le moment parce que tu vois où c'est là qu'il y aurait peut-être eu l'expérience des playoffs, etc. En plus c'est quand même une équipe qui est pas loin d'être en mode on gagne maintenant, ils ont fait des gros investissements avec Khalil Mack, avec d'autres joueurs, avec Derwin James, si je dis pas de bêtises, qui a dû aussi avoir un gros contrat. Enfin, ouais, je trouve que pour moi c'est le moment où tu dis bon ok, Staley, c'est dur parce que ça fait que 2 ans, mais tu peux dire ok, il a fait le boulot un peu de construction et tout, mais là il nous faut un mec qui a de l'expérience parce que ces gars-là ils sont un peu, ils sont pas
Non,
loin, ils
c'est
sont
sûr.
déjà en playoff, hein. Donc voilà, est-ce que toi ça te conviendrait sinon c'est la solution qui est aussi avancée, qui est de dire on change juste le coordinateur offensif?
Ouais, moi ça pourrait me convenir. En fait, j'ai envie de te dire que c'est un peu Sean Payton ou rien. C'est soit tu sais que tu peux attirer Sean Payton et Vic Fangio, parce qu'apparemment, c'est un peu quand même la doublette qui se murmure. Hein. Vic Fangio en coordinateur défensif serait prêt à prendre le poste de coordinateur défensif de l'équipe dans laquelle Sean Payton irait. Donc, si tu me dis que demain, tu peux t'assurer une doublette Sean Payton-Vic Fangio, bon, bah vas-y, je vais pas. Maintenant, si tu n'as pas ces deux-là, je trouverais pas ça scandaleux de laisser une saison de plus à Staley en changeant le coordinateur offensif, en lui disant par contre il faut changer en attaque, il faut que tu trouves le gars qui va faire passer un palier à tout le monde. Voilà,
c'est vrai qu'il y a Jérémy notamment sur le chat qui dit que le pass rush des Chargers devait être parmi les meilleurs, qu'il y avait beaucoup de hype et que ça a pas non plus été dominant alors qu'ils sont censés être un coach défensif. Hein.
Oui, non, clairement. C'est peut-être presque le plus gros reproche qu'on peut lui faire, hein, c'est qu'il venait avec une casquette de coach défensif et que son équipe n'a jamais été dominante défensivement. Il y a eu quelques belles révélations, Derwin James, Asante Samuel, hein, qui depuis 2 ans fait des très bonnes choses. Mais globalement, en termes d'effectifs, d'équipe, de prestations collectives, oui, il n'y a pas eu de grande réussite.
Oui, sans parler de cette défense contre la course Gruyère que El Magnifico mentionne sur le chat, qui a été aussi un des problèmes récurrents.
Ouais, qui est un problème, ouais, bien sûr. Ouais.
Bon, il faut quand même parler un peu des vainqueurs, parce qu'il y a une équipe qui a gagné, qui est allée chercher ce match-là. Les Jaguars de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, on le voit, 28 sur 47, 288 yards, 4 touchdowns, 4 interceptions. Alors, pour vous donner le déroulé, il commence par interception, punt. C'est son début de match. Il termine ensuite par touchdown, 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 field goal de la gagne. C'est assez monumental quand même de se relever de ça, non ?
C'est absolument monumental. Je suis assez d'accord avec toi. J'avoue que moi, en direct, hein, quand il en était à 3 interceptions en 4 drives, 4 en 5, j'ai commencé à me dire ok, enfin, je vois pas vraiment comment il se relève, quoi. Vraiment, les passes étaient pas assurées. Il se faisait avoir par les pièges défensifs, on va dire ça comme ça, des Chargers. C'était compliqué de voir comment il remonte la pente. Mais il a réussi à le faire et c'est peut-être le plus incroyable et j'ai presque envie de te dire le meilleur signe pour Jacksonville, c'est qu'ils ont un quarterback qui a l'air d'avoir du sang-froid et d'avoir ce qu'il faut à ce poste-là, en fait, pour aller à la gagne. Sur ce qu'il a fait, sur ses lancers, tout ça, ça reste pas le quarterback qui m'impressionne le plus. Hein. Je trouve qu'il y a des quarterbacks bien plus impressionnants que lui, mais cette capacité à se relever de ça, franchement, c'est assez bluffant pour un joueur de deuxième année. Et avec autant de, comme on disait tout à l'heure, autant de hype autour de lui à son arrivée en NFL, et même de ce que j'ai compris à son arrivée au lycée, à son arrivée à la fac, à son arrivée partout de tout temps. Donc oui, c'est assez impressionnant et ça peut que lui faire de bien, en fait, de pas commencer sa carrière en playoff comme ça et d'être capable de renverser la table dès le premier match, j'ai envie de dire. Donc très prometteur pour la suite, ouais.
J'ai lancé un petit sondage sur le chat. Qui est allé se coucher à la mi-temps? Vous avez le choix entre moi, non, je suis allé au bout et je dormais déjà avant le. Alors je crois que j'ai tapé, mais il n'y avait pas assez de caractère. Je dormais déjà avant le match. Voilà, c'était match le mot qui manque. Donc voilà, je vous laisse répondre. Mais il y en a peu qui ont l'air de vouloir avouer qu'ils se sont couchés à la mi-temps. C'est mentionné aussi sur le chat et je pense qu'évidemment ils ont raison. Doug Peterson, on le savait, audacieux, le Philly Special au Super Bowl, c'est lui. Là, il y a une belle quatrième tentative de Travis Etienne, il y a la conversion à 2 points par Trevor Lawrence qui est réussie. Parce que mine de rien, s'il la rate, ils sont à 4 points et c'est pas le même match. Hein.
Tout à fait.
Il y en a qui auraient pas osé, même avec la pénalité qui rapprochait. On peut dire que là, pour le coup, il a été à la hauteur en playoff, Raphaël, qu'il a été meilleur que son adversaire, notamment, tu le disais, sur cette capacité à avoir une équipe qui a 0-27 et qui reste dans le match, quoi.
Complètement. C'était déjà un peu, de toute manière, ce qui laissait paraître et ce qui sortait hein, du côté de Philadelphie quand il a eu ce run au play-off, c'est que beaucoup louaient son intelligence émotionnelle et cette capacité qu'il avait à parler à ses joueurs, à sentir lesquels étaient dans de bonnes dispositions et comment les booster, mais sans le vieux boost de « vous êtes les plus forts, on va y arriver », tu vois, un truc un peu plus travaillé que ça quand même. Et c'est vrai que ça a souvent été loué pour Doug Peterson et là c'est clairement ce qui s'est passé. Au-delà de quelques décisions de coaching pur, on va dire d'intelligence de jeu qui ont été très bien pensées, très bien faites et voilà, mais je pense que c'est effectivement c'est d'abord et avant tout psychologique là, sa victoire, c'est parce que Les Jaguars, j'ai envie de te dire qu'à 27 à 7 à la mi-temps, après finalement déjà une belle saison, hein, qu'ils ne les voyaient pas forcément aller en playoff, les mecs auraient presque pu un peu aussi lâcher en se disant ouais, on est quand même arrivé jusque-là, c'était pas si mal, tout le monde ne nous voyait pas aller arriver jusque-là. Et non, 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 il a réussi à maintenir tout ça à flot. Et en plus, j'ai trouvé que, enfin, là où je les ai trouvés aussi et assez impressionnants, c'est qu'ils ne se sont pas précipités dans leur remontée.
C'est vrai.
Ils ont continué à faire des courses. Ils ont continué à faire des petits jeux à la passe. C'est pas comme certaines équipes qui ont 15-20 points de retard et puis on demande au quarterback de lancer des bombes de 40-45 yards à tous les snaps en se disant bon, il y en a bien une qui va passer et puis on va remonter rapidement. Là, ils ont construit des drives. Ils ont pris leur temps. Alors oui, il y a eu des gros gains. Il y a eu des gros gains, mais globalement, c'est ouais, on a senti que Peterson arrivait à leur transmettre une sorte de sérénité, de on peut le faire, on se précipite pas, drive par drive en fait. Drive par drive, et à partir du moment où ils ont plus perdu un seul ballon, bah il n'y a plus eu match en fait.
Jamais une équipe n'avait gagné en playoff en perdant 5 ballons de plus que l'adversaire. C'était arrivé 26 fois, évidemment, ça faisait 26 défaites pour les équipes qui avaient perdu 5 ballons de plus que l'adversaire, parce que les Chargers n'ont perdu aucun ballon sur ce match en plus, hein. Je crois que c'est un des
Ouais,
trucs
c'est
les plus dingues. Au rayon des bonnes pioches, il y a quand même Evan Engram qui fait un énorme match avec cette réception pour 93 yards et un touchdown qui était une signature de l'intersaison. Christian Kirk prend 8 réceptions, 78 yards et un autre touchdown, c'était une signature de l'intersaison. Donc pour le coup, mine de rien, ils ont quand même aussi recruté judicieux. Et puis à cette défense, Josh Allen, Trayvon Walker, qui aussi a su profiter de la fébrilité adverse dont on parlait, 10 quarterback hits, Raphaël. Tu disais drive par drive pour l'attaque, mais pour la défense, ça a bien marché aussi.
Ouais, ça a bien marché. C'est notamment Josh Allen, hein, a fait une vraiment très très bonne impression sur la plupart de ses snaps. Ils l'ont pas mal de fois bougé de position, etc. Enfin, c'était assez performant et très efficace ce qu'ils ont fait. Je te rejoins. En défense, ils ont progressivement mis les ouais. Mis les barbelés, ils ont. Alors, je continue à penser qu'ils ont un peu profité de la blessance du left tackle titulaire des Chargers pour se faciliter la tâche, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le cours du match. Mais in fine, si tu veux, c'est pas tellement la prestation défensive qui m'a le plus surpris en cours de match parce que, encore une fois, ils n'avaient pas pris tant de sacs de touchdown en première mi-temps malgré toutes les pertes de balles dans leur camp de
C'est vrai
l'attaque.
aussi.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai
Il y
aussi.
avait, ils avaient réussi quand même malgré tout à ralentir l'attaque, à ne prendre que des field goals, entre parenthèses, à certains moments. Donc il y avait déjà des bonnes choses défensives. Il fallait juste que l'attaque leur mette un petit coup de main en arrêtant de laisser Justin Herbert partir des 30 yards quoi,
Oui.
dans leur propre terrain. Et à partir du moment où ils ont réussi, où l'attaque n'a plus perdu de ballon, bah, comme les Chargers se retrouvent à partir de leurs 20 ou de leurs 15 yards, bah, c'était tout de suite plus compliqué de remonter 80, 75 yards et ça s'est vu.
Le sondage, je dormais avant le match, 56% remporte le sondage, 24% des gens sont allés se coucher à la mi-temps et 20% sont allés au bout. Raphaël, dernière question sur ce match avant de passer à l'autre. On peut quand même dire que tout est allé dans leur sens, et ce qui est évidemment nécessaire pour gagner un match où tu es mené de 27 points, mais les coups de sifflet, les pénalités, les nerfs et les erreurs de bêtes de certains joueurs des Chargers, bon, il fallait aussi que tout aille dans leur sens.
Oui, mais tu as besoin, j'ai envie de dire, quand tu es mené de 27 et de 20 points, tu as besoin qu'il y ait quelques actions qui tombent de ton côté et tu peux, enfin voilà, tu as besoin aussi d'un peu de chance. Et effectivement, on en reparle, mais la prestation de Joey Bosa, qui est censé être un capitaine défensif, à ce titre-là, par exemple, est absolument catastrophique. Enfin, deux fautes personnelles, un mauvais alignement sur un sac, enfin. Et ça, les Jaguars, ça leur tombe entre les mains, ce genre de comportement qui t'aide, ça, tu peux, enfin, tu le provoques pas vraiment, ça te tombe dessus et tu le prends et tu fais avec et tant mieux pour eux. Mais oui, t'as forcément un peu de chance. Mais comme les Chargers, finalement, ont eu des coups de chance qu'ils n'ont pas su bonifier et profiter. Toutes ces pertes de balles auraient dû, à la mi-temps, Los Angeles doit mener 38, de 38, enfin, de 38 points et pas de 20, tu vois, enfin.
Bon, en tout cas, c'est Jaguars qui sont tête de série numéro 4. On ne connaît pas leur adversaire au moment où on enregistre. Vous le saurez. Après,
Si.
ils
Ah
jouent.
oui, ouais.
Et oui, parce que si
Oui,
les
c'est vrai que t'as
Ravens
encore
ou
oui,
les
il y a encore les
Dolphins
Ravens,
passent,
oui.
c'est eux qui vont
T'as
sur les
raison.
Chiefs. Voilà.
Ouais.
Mais si vous avez un Bills Bengals qui semble le plus probable en demi-finale de conf, ça veut dire que les Jaguars iraient sur les Chiefs.
Mais du coup, mes excuses, parce qu'effectivement, dans le résumé du match, je me suis un peu emballé pour la suite
Ah.
en annonçant que Jacksonville allait affronter Kansas City. Je me suis un petit peu
Ah bah voilà.
emballé,
Bon
c'est vrai.
bah
Ouais.
tu vois, j'étais tellement éclaté que j'ai pas relu donc
Mes excuses. Non, mais je sais pas, ça me paraissait évident que la 4 a défié la 1 et j'ai oublié que.
dans les faits, Si tout le monde passe comme prévu, on va dire.
Je crois que effectivement les deux autres équipes qui jouent avec leur quarterback numéro 3 face à deux ogres de l'AFC, j'ai pas eu beaucoup de.
Voilà, on est assez d'accord. Voilà, en tout cas pour ce match, on va enchaîner avec le 49ers Seahawks, 41-23 pour San Francisco, match plus tranquille. Raphaël, on a eu l'impression que la puissance des 49ers, que ce soit en attaque ou en défense, a fini un peu par faire la différence, presque de manière inéluctable.
Oui, il y avait un côté très bulldozer, engin de chantier qui continue sa route. Et alors oui, il y a peut-être un peu plus d'obstacles que prévu, donc ça prend un peu plus de temps, mais ça finit par rouler sur l'adversaire, et notamment offensivement, parce que Seattle s'est bien débrouillé sur la première mi-temps pour limiter autant que possible l'attaque et l'ensemble des armes à disposition de Brock Purdy, mais ça a fini par craquer. Parce qu'une des vraies spécificités de cette attaque des 49ers, c'est quand même la caractéristique de ces joueurs offensifs de gagner du yard après catch, après contact. Et McCaffrey est peut-être le meilleur coureur dans ce domaine-là. Deebo Samuel est peut-être le meilleur receveur en yard after catch, j'ai envie de dire. En vraiment cette capacité à, une fois que la réception est faite, à les transformer. J'ai en tête cette réception de 10 yards qu'il transforme en gain de 60 yards parce qu'il a cette capacité-là. Et donc, quand tu as trois Kittle, etc., quand tu as trois, quatre menaces comme ça, bah pour une défense pas assez forte de Seattle, la tâche est trop élevée, on va dire, pour tenir tout match. Et il aurait fallu presque priver San Francisco de ballon, mais c'était trop compliqué.
Ouais, et puis tu sens que physiquement, c'est ce que tu disais, quoi, Samuel, Kittle, tous ces mecs-là, ils t'épuisent. Donc même à l'impact, c'est très très compliqué de les tenir sur tout un match. Et puis il y a Brock Purdy, 18 sur 30, 332 yards, 3 touchdowns. Début de match, on va dire doucement, prudent. Et c'est monté en puissance, il y a eu quelques belles improvisations. On a l'impression que c'est plus une inconnue ou un doute quoi pour eux, c'est leur quarterback et ça tourne comme si ça avait été Jimmy Garoppolo ou...
Bah en tout cas clairement ses coéquipiers n'en doutent plus, parce que quand tu vois les déclarations de Fred Warner notamment après match en disant c'est notre gars, on a confiance et tout, enfin tu sens que le mec a réussi à se mettre l'ensemble de ses coéquipiers dans la poche de manière assez rapide et assez incroyable. Oui on sait ce qu'on a, et enfin j'ai même eu, alors là, bien sûr, on est sur de l'impression et tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais j'ai même eu le sentiment que Kyle Shanahan, dans les jeux appelés, faisait plus confiance à Brock Purdy qu'il n'a jamais fait confiance à Garoppolo. Il le laissait faire plus de choses, plus de passes en profondeur, plus de lancers risqués, plus de place pour de l'improvisation. J'ai eu l'impression que, ouais, même Shanahan était plus ouvert, on va dire, dans son playbook avec Brock Purdy, pourtant rookie, pourtant cinquième match, cinquième ou sixième peut-être, je sais plus, seulement en NFL. Non, c'était assez bluffant là encore. Ouais.
Après, je trouve qu'il est très très bon aussi pour profiter quand même des qualités de coaching de Shanahan, au sens où en deuxième mi-temps, il lance quand même à des mecs qui sont souvent très bien ouverts.
Non mais bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de te dire. Il profite du système Shanahan et de vraiment cette attaque avec beaucoup d'armes capables de faire la différence et d'être ouverte, de cible ouverte. Oui, il en profite maintenant. Il en profite aussi de manière mieux que ne le faisait, je trouve, Garoppolo, tu vois. Donc ça c'est aussi à son mérite, hein, d'aller encore plus loin. Et la preuve, 324 yards, c'est la deuxième ou troisième meilleure performance en yards gagnés par un quarterback des 49ers en playoff. C'est pas anodin que Garoppolo, qui a amené les 49ers au Super Bowl, n'ait jamais fait autant en attaque.
Ouais, ça va être intéressant. Je vois que ça s'avance déjà dans le chat sur Purdy doit être numéro 1 maintenant, etc. On va attendre que la saison se termine pour passer dans ces conclusions-là. Mais clairement, il se passe quelque chose d'intéressant du côté de San Francisco, parce qu'on rappelle qu'en plus de Garoppolo, qui est en fin de contrat, donc en vrai, c'est peut-être même pas une question, tu vois, Garoppolo, il est en fin de contrat et voilà. Il y a quand même Trey Lance qui revient. Donc,
pour lequel ils avaient vendu beaucoup, échangé beaucoup de choix pour aller le chercher. Hein, donc,
T'as le troisième choix de la draft il y a deux ans contre le dernier choix de la dernière draft. Voilà, il va falloir faire un choix. En tout cas, ça va être passionnant. Les Seahawks, pardon, menaient quand même 17-16 à la mi-temps. C'est pour ça que je disais qu'ils ont été épuisés, qu'on les a eu à l'usure, entre guillemets. Les Geno Smith, 25 sur 35, 253 yards, 2 touchdowns, 1 interception. On parlait de garder sa place. Là, il a, dans la foulée du match, déclaré son amour à cette équipe. Eux ont l'air de vouloir le garder, selon les médias américains, que ce soit franchise tag ou autre. On peut quand même dire qu'en effet, la défense a plutôt fait son boulot dans ce match. L'attaque.
Oui, ouais, parce que la défense un peu moins, effectivement. L'attaque a globalement bien joué, notamment en première mi-temps. Il y a eu des belles séquences, cette passe pour Metcalf, etc. Je comprends que Seattle veuille le garder l'an prochain. Je trouve que, alors, je suis pas certain que ce soit quand même le quarterback pour les 5 prochaines années à Seattle, mais en tout cas, le temps de peut-être se mettre en position d'aller chercher un jeune quarterback intéressant, il fera l'affaire. Et si tu continues à renforcer l'effectif autour de lui, ça ne peut que progresser d'un point de vue collectif. Là-dessus, je comprends. Oui, l'attaque a été bonne. J'ai presque trouvé un moment qu'ils se sont mis un peu à sous-utiliser Kenneth Walker. Ils auraient peut-être pu encore lui donner un peu plus de ballon.
C'est vrai qu'il y a que
Mais
15 courses, ouais.
ouais, mais bon, après, voilà, c'est là, malgré tout, ils étaient aussi face à une très bonne défense en face, la meilleure de la saison. Ils s'en sortent avec 23 points sur une attaque avec beaucoup de rookies, avec un quarterback dont on n'attendait plus grand-chose. Si, alors sur ce match, c'est peut-être pas suffisant, mais si tu rejuges sur l'ensemble de la saison, c'est quand même. Ouais, c'est pas l'attaque qui a posé problème sur ce match, clairement.
Non, et puis même pour la suite, hein, on parle de le garder, mais Smith, Kenneth Walker, DK Metcalf, Tyler Lockett, t'as quand même un noyau offensif plutôt séduisant. Et on l'a dit, la défense, elle a souffert, ils prennent 505 yards sur ce match.
Ouais, il est là
C'est là le chantier de l'intersaison.
Oui, il est là le chantier de l'intersaison. J'ai trouvé quand même qu'on a beaucoup vu l'absence du linebacker Jordyn Brooks hein, dans cette défense. C'est quand même pas un hasard si les zones intermédiaires ont été autant exploitées du côté de San Francisco. Je pense que l'absence de Brooks là-dessus leur a fait très très mal. Hein. Il s'est blessé le match avant les playoffs, 17e journée peut-être ou 18e, j'en doute, mais voilà, pas anodin. Maintenant, vu la dernière draft de Seattle, s'ils continuent à avoir la main chaude là-dessus, tu dis qu'avec un ou deux ajouts l'an prochain en défense,
Peut-être,
ça peut vite repartir. Hein. C'est quand même, il y a des bases. Il y a des bases quand tu regardes Tariq Woolen, quand tu penses au retour de Brooks l'an prochain, Nwosu sur la ligne défensive. Enfin, il y a quand même des éléments pas inintéressants.
ouais.
Là, c'était trop juste cette année, mais bon.
Ça peut être intéressant en effet. Du côté des Niners, ça jouera la tête de série la plus haute qui sortira des matchs du premier tour, c'est-à-dire Vikings ou Buccaneers. A priori, en tout cas, ça ne peut pas être les Giants, ça c'est sûr, puisque les Giants sont tête de série numéro 6 et que s'ils sortaient, ils iraient jouer les Eagles qui sont tête de série numéro 1. Bon voilà, toujours comme d'habitude avec ces histoires de tête de série. Revenez sur le site lundi, ce sera clair. Voilà, normalement, enfin lundi ou mardi, parce que du coup, je sais plus si le Buccaneers Cowboys fera attendre. Oui, du coup, revenez mardi matin.
Oui,
Voilà,
il fait attendre.
revenez mardi matin. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce
Eh ben merci à
débrief.
toi.
On se retrouve très prochainement en podcast, hein, évidemment. Et puis bonne suite de playoff à toi.
Eh ben merci, et puis bonne fin d'émission et bon dimanche de match à tout le monde.
C'est quoi ta lose à toi? On va enchaîner avec ça. Si
Ah.
t'as le choix entre les Broncos. Ah non, attends, ouais,
Ouais.
mais du coup, je vais spoiler.
Ah
Alors
oui, tu
attends,
vas
je
spoiler.
vais pas spoiler les 5 nominés. Je vais te demander c'est quoi ta lose à toi.
Ah, j'aurais du mal à ne pas citer les Broncos cette année quand même.
Ouais,
Enfin,
ils ont.
entre l'échec Wilson et je sais même pas si on peut utiliser le terme d'échec pour Nathaniel Hackett, tellement ça a été désastreux, mais
Oui.
ouais, Broncos, du mal à dire autre chose.
Bon, les Broncos pour Raphaël. Merci encore. On se retrouve très très vite en podcast. On débriefera le match de lundi soir ensemble, notamment. Merci beaucoup, Raphaël. À très bientôt.
Ciao.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.